Alors, je vous pose une question ce soir. Est-ce que nous avons conscience du mal qui est en nous? Est-ce que nous avons conscience du mal qui est en nous? Je pense que la réponse honnête à cette question, c'est plus ou moins. Plus ou moins. La plupart d'entre nous, nous nous regardons dans la glace et nous n'avons pas l'impression d'être des monstres. Évidemment, bien sûr, nous prononçons parfois une parole de travers, nous avons parfois des pensées impures. Nous agissons parfois avec de mauvaises intentions, parfois nous sommes motivés par des motivations égoïstes, mais tout ça, franchement, c'est rien d'extraordinaire, hein. Quelques-uns parmi nous, nous pensons même être plutôt de bonnes personnes par rapport à la moyenne, hein, si nous sommes honnêtes. Nous ne nous dirions pas parfaits, hein, quand même pas, on va quand même pas aller jusqu'à se dire parfaits, mais nous ne sommes pas rongés par la culpabilité. N'est-ce pas? Et nous sommes relativement satisfaits de nos performances morales. Puis il y en a d'autres parmi nous, au contraire, qui sommes peut-être profondément affligés, peut-être même découragés, déprimés, par la tendance que nous avons clairement à faire le mal. Et on ne peut que constater cette tendance dans notre vie et ça nous rend triste, ça nous déprime, ça nous décourage. Il s'agit peut-être de choses que nous avons faites dans le passé, il n'y a pas très longtemps, et dont nous avons honte. Peut-être des choses que nous faisons de manière récurrente et que nous n'arrivons pas à surmonter. En tout cas, nous avons tous, vous voyez, plus ou moins conscience du mal qui est en nous. Mais quelle que soit notre situation aujourd'hui, que nous nous considérions comme étant des personnes mauvaises ou des personnes pas si mauvaises que ça, quelle que soit notre situation, nous avons en tout cas quelque chose en commun, c'est que nous sommes en réalité pire que nous le pensons. Et il est important pour nous de comprendre ça et de grandir dans notre conscience du mal qui est en nous, ou bien de, tout simplement de ce que la Bible appelle le péché qui est en nous, grandir dans notre conscience du péché qui est en nous, pas pour déprimer encore plus que vous ne déprimez peut-être déjà, mais plutôt pour grandir aussi et par conséquent dans notre appréciation de ce que Dieu a fait pour nous délivrer du mal par Jésus-Christ. En grandissant notre conscience du péché qui est en nous, grandissons aussi et simultanément et par conséquent dans notre appréciation de ce que Dieu a fait pour nous délivrer du mal par Jésus-Christ. Et c'est précisément le but du texte qu'on est sur le point de lire. Tu veux savoir à quel point ton péché est grand? C'est simple. C'est ton péché qui a tué Jésus-Christ. Et tu veux savoir à quel point ton Sauveur est grand? C'est simple. Jésus-Christ étant innocent est mort pour le coupable que tu es. Telle est finalement la leçon du texte qu'on va lire dans un instant. C'est Diana qui va venir devant faire la lecture de ce texte. Il s'agit de l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, les versets 1 à 26.
Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce chant a été appelé « chant du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le chant du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié.
Merci, on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci infiniment pour ta sainte parole, pour ces écritures saintes qui nous viennent de toi par l'intermédiaire de tes prophètes et de tes apôtres. Et nous prions que tu prennes maintenant cette parole qui est vivante et efficace et que tu l'utilises pour faire ton œuvre en nous de manière souveraine, de manière puissante pour nous transformer selon ta volonté et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors vous voyez qu'on est dans la suite du texte qu'on était en train de lire et d'étudier la semaine dernière, et en fait dans la suite du récit de cet évangile selon Matthieu. Ça fait, je regardais l'autre jour, ça fait en fait 2 ans que j'ai commencé à prêcher sur cet évangile, plus de 2 ans que j'ai commencé à prêcher sur cet évangile selon Matthieu. On approche de la fin, et là on approche surtout de la crucifixion de Jésus, et l'épisode que nous venons de lire, c'est celui qui raconte le procès de Jésus qui ici comparaît devant le gouverneur romain que vous connaissez tous et qui s'appelle Ponce Pilate. Et la première chose que ce texte veut nous faire remarquer, c'est la culpabilité, non pas de l'accusé, mais la culpabilité des accusateurs. En fait, quand on y regarde d'un peu plus près, ce texte qu'on vient de lire, c'est un récit qui est vraiment à charge contre les responsables religieux juifs de cette époque, qui sont ici les principaux sacrificateurs et les anciens, qui sont appelés ainsi, et qui sont les principaux instigateurs de la mise à mort de Jésus. Leur rôle est clairement souligné dès les premiers versets. D'ailleurs, c'est une réalité qu'on avait déjà vue dans l'histoire, n'est-ce pas? Mais dès les premiers versets de ce passage, versets 1 et 2, il est dit que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. C'est bien leur projet, n'est-ce pas? Ils sont les principaux instigateurs de l'exécution de Jésus. Et ensuite, on découvre dans les versets suivants et le reste de ce passage toute l'étendue de leur malice, de leur méchanceté à l'encontre de Jésus, puisque d'abord on voit qu'ils sont hypocrites dans leur relation avec Judas. Judas, nous dit le texte, Judas le traître, qui était un des 12 disciples, et ben le texte nous dit ici qu'il change d'avis, il regrette, pas avec une contrition authentique, mais il change d'avis concernant ce qu'il avait fait. Il avait trahi Jésus et contre de l'argent, mais il regrette d'avoir fait ça, donc il fait demi-tour, il veut rendre l'argent, mais les sacrificateurs lui disent, mais on va pas reprendre ton argent parce qu'on va pas le remettre dans le trésor sacré, le trésor du temple. Et on voit là toute leur hypocrisie parce que cet argent qui est le prix du sang, ils l'ont pris où cet argent? Ils l'ont pris dans le trésor pour acheter la trahison de Judas, n'est-ce pas? Et là, ils se cachent derrière des semblants de scrupules religieux pour dire « Oh non, 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 nous, on ne va pas se mêler de ça. Garde cet argent, on ne va pas le remettre dans le trésor du temple. » Donc, on découvre ici toute leur hypocrisie, la façon dont ils essayent de cacher leur malice derrière cette espèce de fausse religiosité. Ensuite, on découvre qu'ils ont un véritable aveuglement, oui, un véritable aveuglement dans la poursuite de leur objectif, puisque ils vont demander la libération d'un criminel notoire à la place de Jésus. Ils sont si aveuglés par l'objectif qu'ils recherchent qu'ils sont prêts à laisser se libérer, être libéré, Barabbas, un prisonnier fameux, nous dit le texte, mais dans les autres évangiles, on apprend que c'était un meurtrier, donc un criminel notoire, connu. Ils préfèrent que lui soit libéré plutôt que Jésus. Et ensuite, on les voit qui manipulent la foule. Et enfin, ils vont faire preuve d'une obstination complètement furieuse et irrationnelle. Il y a une surenchère dans leur fureur, dans leur haine contre Jésus, puisqu'à la fin, verset 25, ils en arrivent à prononcer avec la foule une incroyable imprécation. Ils se maudissent eux-mêmes en disant « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Vous voyez la surenchère, l'acharnement de ces principaux sacrificateurs et des anciens qui sont les instigateurs de l'exécution de Jésus et qui s'acharnent contre lui au point d'être hypocrites, aveugles et obstinés. Ils manipulent la foule et ils prononcent même cette imprécation terrible. Et alors, quand on lit ce texte, on est censé vraiment frémir en découvrant cette histoire parce qu'on voit effectivement qu'il y a des gens qui s'acharnent de manière pratiquement incompréhensible contre Jésus, et les gens qui s'acharnent contre Jésus, ce ne sont pas les Romains qui sont l'occupant illégitime de la terre promise, ce ne sont pas des barbares qui arrivent d'on ne sait où. Qui c'est qui s'acharne contre Jésus? Ce sont les responsables religieux juifs de l'époque, les autorités religieuses des Israélites. C'est-à-dire que ce sont les responsables du peuple du Messie qui s'acharnent contre le Messie pour le faire mourir. C'est dingue. Vous vous souvenez peut-être de la sortie du film La Passion du Christ en 2004, un film de Mel Gibson. Peu importe que vous l'ayez vu ou non, c'est pas forcément un film que je conseille, mais en tout cas, ce film, vous l'avez deviné d'après son titre, il raconte les souffrances de Jésus et sa crucifixion. Et peut-être que vous vous souvenez, en 2004, que lors de la sortie de ce film, il y a eu une polémique concernant le message prétendument antisémite du film. Alors les enfants, vous savez ce que c'est que l'antisémitisme? L'antisémitisme, ça décrit une attitude qui consiste à détester les juifs. Alors c'est quelque chose qui a été présent ces deux derniers millénaires dans l'histoire. Il y a des gens qui détestent les juifs, alors on les appelle des antisémites. Et on a dit que ce film de Mel Gibson avait un message antisémite. Pourquoi? Parce que le film montre, en tout cas semble montrer, que les autorités juives de cette époque, de l'époque de Jésus, sont les principales responsables de son exécution. Alors ça fait passer les juifs pour des méchants, vous comprenez? Donc on a dit, ce film, il nourrit l'antisémitisme, il justifie l'antisémitisme. Or, sur ce point-là, du point de vue historique, n'est-ce pas, le film correspond bien à ce qui est décrit dans ce récit, non? C'est clair dans le texte qu'on vient de lire, que ce sont bien les autorités juives qui sont les principales responsables de la crucifixion de Jésus. Mais dans quel but le récit nous montre-t-il cela? Est-ce que c'est pour nous faire détester les juifs? Ben bien sûr que non, bien sûr que non. Les juifs, dans ce texte, il faut bien comprendre qu'ils représentent le peuple de Dieu. Ils sont le peuple du Messie, le peuple de la loi, le peuple de Moïse, le peuple des promesses de grâce, le peuple avec lequel Dieu a fait alliance dans l'histoire. c'est en fait à ce stade de l'histoire, à ce stade du récit, le peuple juif, le peuple des Israélites, c'est en fait le peuple du royaume des cieux dont il a été tant question dans l'évangile selon Matthieu. C'est eux le peuple du royaume des cieux. C'est eux les héritiers légitimes, les premiers destinataires de toutes les promesses de grâce de Dieu et même de toute l'œuvre que Jésus en tant que Messie est venu accomplir. Et donc c'est pas leur appartenance ethnique qui les caractérise en tant que juifs dans le texte ici, mais c'est leur relation à Dieu. Alors plutôt que de dire ce sont les juifs qui ont fait mourir Jésus, peut-être pour être plus exact, on devrait dire, et pour pas être mal compris, on devrait dire ce sont les croyants pratiquants qui ont fait mourir Jésus. Et c'est qui les croyants pratiquants aujourd'hui? Sinon, nous qui sommes à l'église en train de lire et d'étudier ce texte biblique. Le but n'est pas de nous faire pointer les juifs du doigt. Le but est de piquer notre propre conscience. Vous comprenez? Parce que c'est nous aujourd'hui qui sommes dans une relation d'alliance avec Dieu. C'est nous qui sommes venus nous assembler ici pour rendre un culte à l'Éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Imaginez une grosse entreprise présidée par un PDG et gérée par un conseil d'administration. Il se trouve qu'un jour, le conseil d'administration, sous l'initiative d'un homme en particulier, à savoir le vice-président, décide de prendre de très mauvaises décisions qui conduisent l'entreprise au bord de la faillite. Imaginez cette situation. Et il se trouve que cet homme, ce vice-président, principal responsable du déclin de l'entreprise, figurez-vous qu'il est noir. Finalement, le PDG va reprendre les choses en main, cet homme se fait renvoyer, le vice-président se fait renvoyer, et vous, qui êtes blanc, pardon, t'es doué, il faut que tu inverses les rôles, là, Hélène, mais vous prenez sa place en tant que vice-président de l'entreprise. Est-ce que vous allez vous dire, bon, moi, qui suis blanc, je risque pas de faire les mêmes erreurs que ce gars qui m'a précédé parce que lui, il était noir? Pas du tout, ça serait complètement absurde. Est-ce que vous allez vous dire, c'est la faute des noirs en général si mon entreprise a décliné et est arrivée au bord de la faillite? Non, bien sûr que non, ce serait absurde. C'est pas en tant que personne noire que cet homme a fait des erreurs, c'est en tant que vice-président. Ce qui le caractérise, c'est pas son ethnie, c'est pas la couleur de sa peau, mais c'était sa place dans l'entreprise, c'était sa relation avec le PDG ou sa relation avec le conseil d'administration et le reste de l'entreprise. C'est ça qui a caractérisé ses actions, ses erreurs et les conséquences de ses erreurs, n'est-ce pas? Et puisque vous êtes devenu vice-président à sa place, vous feriez mieux de tirer des leçons des erreurs de votre prédécesseur. Et ces erreurs devraient vous inciter à vous examiner vous-même et à vous appliquer dans votre travail. Parce que maintenant, c'est vous qui avez ce rôle, cette fonction, cette relation avec le PDG et le reste de l'entreprise, avec les clients, et ainsi de suite. Et de la même façon ici, lorsque Matthieu, l'évangéliste, écrit ce texte, il le fait à l'attention de gens qui se disent croyants et pratiquants. Et d'ailleurs, quand il écrit ce texte, au 1er siècle, les principaux destinataires de l'évangile selon Matthieu, ce sont des gens qui sont juifs d'origine et qui ont reconnu Jésus comme leur Messie, comme le Messie. Le but de Matthieu n'est pas de jeter l'opprobre sur les Juifs. Loin de là, bien plutôt, son but est de pointer notre propre péché. C'est nous qui sommes à la place des anciens et des principaux sacrificateurs. C'est nous qui sommes dans l'alliance avec Dieu. Verset 18, d'ailleurs, il nous est précisé explicitement la motivation qui a conduit ces responsables religieux à chercher à faire tuer Jésus. Il est dit que c'est à cause de leur jalousie ou leur envie, c'est-à-dire par leur ambition personnelle, leur recherche et la protection de leur intérêt personnel. Et n'est-ce pas là, en effet, cette force puissante, profondément ancrée en nous, qui conditionne beaucoup de nos actes et de nos paroles aujourd'hui? C'est bien la recherche et la défense de nos propres intérêts personnels, en d'autres mots, notre égocentrisme, n'est-ce pas? Le diagnostic est le même entre les ennemis de Jésus dans ce texte, qui sont des croyants pratiquants, et ce qui va mal dans notre vie aujourd'hui. Le diagnostic est le même. Le péché des croyants qui sont dans ce texte, c'est le péché des croyants qui sont dans cette salle aujourd'hui, et dans cette chair aujourd'hui. Leur jalousie, c'est notre jalousie. Leur hypocrisie, c'est la nôtre. Leur aveuglement, c'est le nôtre. Leur obstination, parfois irrationnelle, dans la défense de leur intérêt personnel, au détriment de la dépendance de Dieu et de l'obéissance à Dieu, cette obstination-là, c'est la nôtre, n'est-ce pas? Oui, nous sommes aussi mauvais que ça par nature. Et non, le mal qui est en nous n'est pas différent du mal qui était en eux. Nous sommes pires que nous le pensons. Et c'est notre péché qui a tué Jésus. C'est le péché des principaux sacrificateurs, des anciens du peuple. C'est le nôtre parce que ce péché, c'est le même. Et de ce point, on peut tirer une première application, c'est que quand on lit ce type de passage, où on découvre une telle méchanceté, où on frémit en fait devant une telle malice qui est irrationnelle et violente, eh bien il serait facile pour nous de pointer du doigt les autres, n'est-ce pas? Comme on l'a vu l'autre fois, bah, ces disciples, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ils n'ont jamais rien compris. Ces pharisiens, mais qu'est-ce qu'ils sont rigides et hypocrites. Seigneur, je te loue, je ne suis pas comme les pharisiens. Ces responsables religieux, qu'est-ce qu'ils sont aveugles et obstinés et malicieux et méchants. Tiens, ça me fait penser à Bernard. Oh là là, Bernard. Et tiens, et Brigitte, mais elle aurait vraiment besoin d'entendre cette prédication, Brigitte. En fait, nous devrions prendre à notre compte ce type de passage, n'est-ce pas? Nous devrions jeter un regard lucide sur notre propre cœur. Je suis capable d'une telle méchanceté comme nous la voyons dans ce texte. C'est mon péché qui a tué Jésus. Mais le texte nous présente un contraste frappant entre cette culpabilité donc des accusateurs dans ce procès, d'une part, et d'autre part, l'innocence de celui qui est accusé, à savoir Jésus. D'abord, on voit au verset 4 cette confession de Judas qui reconnaît, dit-il, avoir livré le sang innocent. Judas lui-même reconnaît l'innocence de Jésus. Ensuite, il y a Madame Pilate qui conseille à son mari, le gouverneur, je cite, de ne pas se mêler de l'affaire de ce juste, au verset 19. Elle a eu des songes, elle a été travaillée, perturbée dans ses rêves, dans ses pensées, par sans doute l'action mystérieuse du Saint-Esprit, une sorte de révélation, on n'est pas trop sûr des détails, mais en tout cas, elle a eu cette intuition très forte que Jésus est innocent et que Pilate ne devrait pas se mêler de cette histoire, son mari donc. Et ensuite, il y a le témoignage de Ponce Pilate lui-même, qui demande, verset 3, « Mais quel mal a-t-il fait ?» On voit que Pilate, il est embêté parce qu'il n'a pas de raison solide de condamner cet homme. Il dit, « Quel mal a-t-il fait ? Je vois pas. » Et il est là et il siège pourtant dans cette espèce de procès où Jésus comparaît devant lui, lui pose des questions et il voit pas sur quelle base il peut le condamner. Et finalement, il se passe cette scène très très connue, hein, où il va se laver les mains. Ponce Pilate va faire une petite mise en scène, où devant tout le monde, il va se laver les mains. C'est une façon symbolique de dire, moi, je suis innocent, dit-il, verset 24, je suis innocent du sang de ce juste. Il s'en lave les mains. Et c'est de là que vient l'expression, je m'en lave les mains. Ça vient d'ici, ça vient de l'Évangile, où Ponce Pilate se lave les mains. D'ailleurs, c'est intéressant ce qui se passe parce que il va, au verset 24, il renvoie la balle, il renvoie la responsabilité aux autorités juives, hein, aux autorités religieuses, en leur disant « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde ». Et en fait, il est en train de leur renvoyer la balle que ces mêmes responsables avaient essayé de renvoyer sur Judas. Vous vous souvenez ce qu'ils ont dit au verset 4 ? Que nous importe, cela te regarde. C'est exactement la même expression qui est employée ici. Ponce Pilate qui leur dit non, cela vous regarde. Il leur renvoie la patate chaude dont ils avaient essayé de se débarrasser en la jetant sur Judas. Vous voyez le contraste frappant entre l'exceptionnelle culpabilité des accusateurs de Jésus qu'on a vu dans un premier temps, mais maintenant l'exceptionnelle innocence de Jésus lui-même. Pourquoi Matthieu juge-t-il important de souligner ce point ici ? Eh bien, je crois qu'il veut tout simplement nous émouvoir en tant que lecteur de cette histoire. Il veut nous émouvoir, nous toucher. On a pu voir que la méchanceté des responsables religieux, avec la méchanceté de la foule qui se rend en quelque sorte complice, eh bien, cette méchanceté, c'est la nôtre. Hein, c'était le premier point. C'est notre méchanceté qui est ici décrite. C'est notre péché qui a tué Jésus. Et maintenant, nous voyons, par contraste, l'innocence de notre Sauveur que nous avons crucifié. qui est frappant, c'est que Jésus ne se défend pas contre ses accusateurs. Versets 13 et 14, des accusations sont formulées et il ne répond pas. Ce qui montre que Jésus choisit de prendre sur lui la méchanceté de son peuple. Autrement dit, c'est notre péché qui a tué Jésus, et Jésus étant innocent, assume d'être tué par notre péché. Il n'a pas cherché à se défendre. Au contraire, il a assumé d'être tué par notre péché. Il a assumé ses accusations qui étaient fausses, infondées. Il a pris sur lui la méchanceté de son peuple. Et on est censé être, en fait, bouleversé par ce constat. Alors, c'est vrai qu'on est régulièrement touché, émotionnellement, j'ai envie de dire, par des procès qui ont lieu autour de nous et dont nous entendons parler. Par exemple, dans l'actualité, cette semaine, il y a eu deux affaires judiciaires qui ont fait l'actualité. Si vous avez fait un peu attention à ce qui s'est passé, si vous avez lu les journaux gratuits dans les métros, dans les deux cas, le verdict qui a été prononcé a beaucoup fait parler. D'un côté, donc, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de libération conditionnelle formulée par Madame Jacqueline Sauvage, qui a assassiné son mari violent en 2012. Et beaucoup de gens, vous avez peut-être remarqué, ont pris la parole ensuite pour dire « Mais c'est pas juste, elle n'a fait que se défendre, elle mérite de sortir de prison. » Et beaucoup de gens étaient touchés par cette histoire, peut-être parce que certains aspects de l'histoire concernaient aussi leur propre vie personnelle et ressemblaient à des situations qu'ils ont connues. De l'autre côté, on a eu le verdict dans le procès de la mère et du beau-père de la petite Fiona, qui avait disparu en 2013. Le procureur avait requis 30 ans de prison pour le couple. Finalement, la mère a été condamnée à 5 ans et le beau-père à 20 ans. Là aussi, des gens ont pris la parole, touchés, émus qu'ils étaient, pour dire « Mais c'est pas juste !» Ils ont martyrisé une petite fille de 5 ans. Ces gens-là méritent la peine maximale. Vous voyez, parfois, un procès en bonne et due forme peut aboutir sur un verdict qui peut sembler injuste à certains. Et quand c'est le cas, on a du mal à l'accepter. On est dérangé, on est perturbé. Parfois, on est poussé à la colère même, en réaction à ce genre de choses. Maintenant, imaginez qu'en plus de ça, vous ayez peut-être un lien personnel ou amical avec un ou plusieurs protagonistes dans un tel procès. Alors, j'imagine que vous vous sentiriez encore plus impliqué émotionnellement dans ce procès et dans le verdict qui en ressortirait. À combien plus forte raison pensez-vous que nous devrions nous sentir impliqués émotionnellement dans le procès de Jésus? Dans le procès de Jésus, où le texte est en train de nous faire comprendre que c'est notre culpabilité qui a fait exécuter le Messie Jésus-Christ, le juste, l'innocent. C'est notre culpabilité. Nous sommes pleinement impliqués dans ce qui se passe dans ce texte. À quel point devrions-nous nous sentir impliqués émotionnellement, être touchés, être émus, être bouleversés par ce qui se passe ici quand nous voyons que Jésus, l'innocent, accepte d'assumer notre péché, qu'il accepte d'être tué par notre péché, en fait, et qu'il ne se défend pas alors qu'il est parfaitement innocent, et que même Judas le traître, et que même Ponce Pilate le païen, et même la femme du païen Ponce Pilate ont conscience qu'il est innocent. Mais le péché dans la vie de ces croyants pratiquants, comme dans la nôtre de vie, le péché est tel qu'il les pousse à cet acharnement quasi irrationnel, furieux, contre Jésus. Et Jésus prend tout sur lui. Et il se passe un truc tout à fait remarquable dans cette histoire. Et c'est à la fois providentiel et en même temps, d'une certaine manière, tout à fait prophétique, c'est qu'il y a, vous l'avez remarqué, sans doute une substitution qui s'opère entre Jésus-Christ, l'innocent, et Barabbas, le criminel notoire. Ce qui se passe dans le texte, c'est que Jésus prend la place de Barabbas. C'est aussi simple que ça, ce qui se passe dans le texte. C'est une image évidente de la raison pour laquelle Jésus a assumé d'être tué par notre péché, bien qu'il fût parfaitement innocent. C'était pour prendre notre place sous le jugement de Dieu, pour que nous soyons délivrés de la dette de nos péchés et pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. L'apôtre Pierre en parle ainsi dans une de ses épîtres. Il dit « Christ est mort pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. » Et donc ici, il y a clairement une invitation très solennelle, hein, qui est adressée à tous les hommes qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus. Une invitation qui est parfaitement résumée par l'apôtre Paul, cette fois, dans un autre passage où il dit, et je dirais même qu'il crie, « Soyez réconciliés avec Dieu !» Et il poursuit, « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus ici, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous voyez cette substitution. Jésus qui prend la place de Barabbas. Jésus l'innocent qui prend la place du criminel notoire sur la croix. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire que si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, nous qui sommes aussi pécheurs que les responsables religieux du texte ici, nous qui sommes aussi pécheurs qu'eux, qui sommes capables d'autant de malice, d'autant de méchanceté, nous dont le péché a tué Jésus, nous si nous plaçons notre confiance en Jésus, nous devenons le Barabbas de l'histoire. C'est Jésus qui est crucifié à notre place, qui détourne sur lui-même le jugement de Dieu pour que nous en soyons délivrés. C'est lui qui devient notre péché et nous devenons en échange sa justice, la justice de Dieu. C'est extraordinaire. C'est intéressant parce qu'il y a un film qui s'appelle Barabbas, qui est sorti en 1961. L'acteur principal, c'est Anthony Quinn. Ce film imagine la vie de ce criminel après ces événements. Et c'est intéressant, il y a un aspect du film qui est intéressant parce que je ne suis pas allé vérifier si c'est vrai ou pas au niveau des règles, des lois romaines. Mais j'imagine que c'est vrai, en tout cas dans le film, ça montre que Barabbas, comme il a été gracié par Pilate, il ne peut plus ensuite être condamné à mort par Pilate. Donc il va commettre des fois des méfaits, des crimes, parce que c'est dans sa nature de criminel, mais il sait qu'il ne peut plus être condamné à mort, parce qu'il a déjà été gracié une fois par Pilate. Et je trouvais ça très intéressant, parce que c'est un peu ce qui nous arrive à nous, qui plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Si vraiment Jésus a assumé notre péché et l'a payé sur la croix à notre place, ça veut dire que Dieu ne va jamais nous punir pour nos péchés, parce que ce ne serait pas juste de sa part de punir deux fois nos péchés, une fois sur Jésus et une fois sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et de même, si la justice de Dieu qui était en Christ nous a été imputée, Dieu ne va pas nous l'enlever maintenant. Il ne va pas nous la retirer. Alors, pour pas que vous pensiez qu'on peut commettre autant de péchés qu'on veut, comme Barabbas continue à commettre des crimes parce que c'est dans notre nature, je vous précise qu'à la fin du film, évidemment, Barabbas, qui est profondément bouleversé par cette substitution qui s'est opérée à son profit, eh bien, il va se convertir et devenir un disciple de Jésus-Christ, et ça va changer sa vie, évidemment. Et nous aussi, si nous sommes justifiés, si Jésus a payé à notre place, les conséquences de nos fautes, nos péchés, la dette de nos péchés pour nous réconcilier avec Dieu, nous ne pouvons pas continuer de vivre comme nous vivions auparavant. Forcément, ça va nous transformer. Cette grâce est une grâce qui nous transforme. Alors, il y a donc une application évidente à tirer de ce point aussi, c'est que bien que notre méchanceté soit vraiment profonde, vraiment sérieuse, cette méchanceté qui nous caractérise peut être remplacée aux yeux de Dieu par l'innocence de Jésus, et pas seulement par son innocence, mais même par sa justice, c'est-à-dire par son obéissance à Dieu, à condition bien sûr que nous ayons foi en lui, à condition que nous reconnaissions ce qu'il a fait par sa mort et sa résurrection, et que nous lui fassions entièrement confiance. Alors c'est pourquoi je disais en introduction qu'il y avait vraiment deux choses à tirer principalement de ce texte. C'est que, d'une part, nous sommes pires que nous le pensons, mais d'autre part, que Jésus est aussi un meilleur sauveur que ce que nous pourrions être tentés de croire parfois. Un bien meilleur sauveur nous avons tous plus ou moins conscience du mal qui est en nous. Et que nous nous considérions comme plutôt moyens ou plutôt mauvais, nous devons reconnaître qu'en réalité, nous sommes capables et même enclins à faire preuve d'autant d'hypocrisie et d'aveuglement et d'obstination furieuse à l'encontre de Dieu que les croyants pratiquants de ce texte, au point même, en quelque sorte, de prononcer notre propre malédiction, tellement nous sommes empêtrés dans la défense de nos propres intérêts, tellement nous sommes obnubilés par notre ambition, par notre ego. Mais Jésus le juste a pris sur lui la méchanceté de son peuple. Il a accepté d'être tué par le péché de son peuple. Il a accepté de se substituer à son peuple sur la croix. Et donc nous pouvons et nous devons grandir à notre tour dans la conscience du mal qui est en nous, mais pas, comme je le disais, pour que cela nous pousse au désespoir, à la déprime, plutôt pour que cela nous fasse grandir en même temps dans notre appréciation de ce que Dieu a fait pour nous délivrer du mal par Jésus-Christ. Et vous vous demandez peut-être comment tout ça s'est terminé. Comment ça a fini cette histoire pour les gens qui étaient là et qui ont crié d'un seul cœur, d'une seule voix, « Crucifie-le ! Rends-nous Barabbas, le meurtrier !» Et nous, on préfère voir l'innocent être mis à mort sur cette croix. Comment ça s'est terminé ? Ben, vous savez quoi, la Bible nous le raconte, ça. Un mois et demi plus tard, à peu près, l'apôtre Pierre est en train de prêcher la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. C'est donc après que Jésus est ressuscité. Il est en train de prêcher auprès de la population de Jérusalem, donc dans la même ville que où ça se passe ici. Et parmi la foule qui est devant lui, il y a des gens, sans doute beaucoup de gens, qui étaient là lorsque Jésus a été crucifié. Beaucoup de gens qui étaient là et qui ont sans doute joint leur voix aux autres pour demander la crucifixion de Jésus et pour dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et maintenant, Pierre leur déclare, en conclusion de sa prédication, sur la base de la résurrection de Jésus, il leur dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Et un peu plus tard, il ajoute « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. » Et on arrive là et on se dit « Mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces gens ?» Et il poursuit l'apôtre Pierre, il dit « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Alors s'il y a de l'espoir pour ceux qui ont crucifié Jésus, le Saint, le Juste, le Prince de la vie, mes amis, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour nous. Leur péché, c'est notre péché. Et on n'était pas là, hein, il y a 2000 ans, dans le centre-ville de Jérusalem. Mais leur méchanceté, c'est notre méchanceté. Mais mes amis, prenons courage, parce que même eux pouvaient se repentir, se convertir et être pardonnés de leur péché. Tu veux savoir à quel point ton péché est grand? C'est simple. C'est ton péché qui a tué Jésus-Christ. Mais tu veux savoir à quel point ton Sauveur est grand? C'est simple. Jésus-Christ étant innocent est mort pour le coupable que tu es. Alors prenons conscience simultanément de ces deux réalités, mes amis. Là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Merci Seigneur. Prions. Seigneur, merci. En effet, pour cette grâce surabondante. Merci d'avoir accompli tout ce que tu avais promis, étant fidèle à ta parole, fidèle à tes plans, fidèle à tes promesses. Merci pour la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce qu'il y a là bien assez de grâce pour couvrir notre péché, et même plus qu'assez. Seigneur, aide-nous à grandir dans la conscience du mal qui est en nous, dans la conscience de combien le péché est grave, mais en même temps, Seigneur, ne nous conduis pas jusqu'au désespoir. Montre-nous en même temps combien nous avons un grand Sauveur. Te le demandons humblement au nom de Jésus. Amen.